Bonjour, bienvenue à tous. On revient aujourd'hui sur les règles et les origines de la belote, le jeu de cartes préféré des Français. Ensuite, on s'intéresse au poisson poubelle. C'est l'invention d'un retraité dans le Morbihan pour nettoyer les plages. Et puis, on fête Pâques avec les chocolatiers de France et une opération généreuse. Mais commençons donc par l'actu de ce mercredi 10 avril. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tournier, bonjour à tous.
Des régions entières souffrent de la sécheresse en France et des arrêtés imposent des mesures de restriction.
Comme dans le département du Nord, à peine à la mi-avril, c'est une première à cette époque, on va passer aussi par le Cher.
Le laboratoire pharmaceutique Servier a déjà versé près de 115 millions d'euros d'indemnisation à 3000 malades qui avaient pris du Mediator.
Le scandale de ce médicament a été révélé en 2017 par la médecin Irène Frachon que nous allons entendre. Le procès au pénal de cette affaire est annoncé au mois de septembre.
Amnesty International a enregistré 690 exécutions capitales en 2018.
Et c'est un chiffre au plus bas depuis 10 ans malgré une hausse dans plusieurs pays. Quel pays, Nicolas Ballu ?
Les États-Unis ou encore le Japon, mais ce ne sont pas les pays qui pratiquent le plus les exécutions capitales.
On va découvrir l'initiative d'un jeune boucher qui fait le tour de France pour mettre en avant la particularité de la boucherie française.
Oui, il travaille pour faire entrer la boucherie française au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
On croyait tout savoir sur Léonard de Vinci, d'autant qu'on en parle beaucoup cette année qui est marquée par le 500e anniversaire de sa mort.
On découvre qu'il était ambidextre, ce sont des scientifiques italiens qu'ils disent.
Et on va expliquer comment ils sont arrivés à cette conclusion. Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farouf sur France Bleu.
On a découvert ce matin ce chiffre de 115 millions d'euros versés par le laboratoire Servier aux victimes du Mediator. Ce médicament contre le diabète, vendu aussi comme un coupe-faim pendant plus de 30 ans et qui a fait plusieurs centaines de victimes.
C'est un montant impressionnant, très rare en France, qui pourrait grimper jusqu'à 140 millions d'euros. Des chiffres à la hauteur du scandale, dit la médecin qui a révélé l'affaire Irène Frachon.
C'est le fruit de maintenant 7 années de combat, en fait. Malgré les résistances du laboratoire Servier, mais qui en fait n'a pas le choix que de payer, parce que sinon c'est l'État qui paye et qui se retourne contre Servier. Donc Servier a tout intérêt à solder, entre guillemets, les comptes avant le procès pénal pour apparaître un petit peu plus propre. Mais dans les faits, les victimes qui n'ont pas eu d'intervention chirurgicale à cœur ouvert, qui ont des atteintes qui sont considérées comme plus mineures, mais qui néanmoins les gênent tous les jours, sont globalement très mal indemnisées. C'est quelques milliers d'euros, si vous voulez, pour un cœur abîmé, c'est vraiment même considéré comme dérisoire par ces victimes. Et celles qui ont fait, si je puis dire, gonfler la note, mais c'est une bonne chose, ça a été quand même une victoire importante, ce sont ceux qui ont eu des opérations à cœur ouvert avec des séquelles irréversibles. Et cet argent-là va leur servir pour les années à venir.
La pneumologue Irène Frachon, qui avait dénoncé le scandale du Mediator et avait inspiré le film sur le sujet, ça s'appelait La fille de Brest.
On ira plus loin avec Irène Frachon ce soir, elle sera l'invitée de Frédéric Dorel à 19h. Le procès au pénal du Mediator va s'ouvrir fin septembre et pourrait s'étaler sur 6 mois avec les audiences.
Nous ne sommes pas encore à la mi-avril et des arrêtés de sécheresse sont déjà pris dans des départements. C'est assez exceptionnel, voire inédit, comme dans le Nord.
Les années précédentes, la préfecture avait enclenché le dispositif au mois de juillet, voire au mois d'août. Les nappes phréatiques sont 2 mètres en dessous du niveau médian. Le préfet du Nord, Michel Lalande.
Nous avons un vrai problème d'eau. Sur un plan quantitatif, il pleut de moins en moins. Et sur un plan qualitatif, car nous allons connaître des problèmes de qualité de l'eau en raison des pollutions, puisque comme il y a moins d'eau, il y a moins de dilution. Et c'est bien parce que, en effet, les nappes phréatiques ne se rechargent jamais pendant le printemps qu'il y a fort à parier qu'au mois de juin, nous nous orienterons vers des mesures complémentaires un peu plus contraignantes.
Oui, mais il y a déjà des mesures applicables. De suite, vous les détaillez, Massarango.
D'abord, lavez votre voiture. C'est interdit désormais, sauf si vous vous rendez dans une station-service, station qui doit être absolument équipée d'un système de recyclage. Interdit également, arroser vos pelouses et vos jardins en pleine journée. Vous n'avez plus qu'un petit créneau avant 9h le matin et après 19h le soir. Et les collectivités aussi doivent se restreindre puisque les terrains de sport, les stades, les golfs sont eux aussi privés de tuyaux d'arrosage, sauf pendant ce créneau horaire nocturne. Les villes ont également obligation de couper les fontaines publiques à moins qu'elles ne disposent d'un circuit d'eau fermée. Et puis, dernière restriction, interdiction, elle concerne les cultures. L'irrigation est désormais interdite entre 11h et 17h, même si la préfecture prévoit une liste de dérogations. Car on le rappelle, l'agriculture ne représente que 2% de l'utilisation d'eau, quand l'industrie dépasse les 18%. Et le reste, l'immense majorité donc, ce sont nous, les particuliers, qui la dépensons.
Emma Sarango à France Bleu Nord.
Et nous sommes maintenant dans le Cher, où les premières restrictions d'eau sont en cours. Un arrêté est annoncé d'ici la fin de semaine dans un département où on observe un déficit de pluviométrie de 33% depuis l'automne. Les répercussions de cette sécheresse sont déjà visibles pour les agriculteurs, Michel Benoît.
Oui, les blés et les orges souffrent déjà du manque d'eau. Des agriculteurs qui, à l'automne, n'ont pu semer que 10% des surfaces habituelles de colza à cause de la sécheresse. Ils se sont rabattus sur des semis de printemps comme la lentille, la févrole, le lin ou les pois de printemps. Certains arrosent déjà pour faire germer ces semis. Mais c'est autant d'eau qu'ils ne pourront plus utiliser cet été puisque la préfecture a décidé de réduire de 20% les quotas disponibles dans 3 bassins de Champagne-Berrichonne. Thierry Touzé, directeur des territoires du Cher.
Les irrigants peuvent toujours irriguer, mais ils savent qu'ils disposent maintenant plus que de 80% de leur volume. À qui court jusque fin octobre, c'est d'abord effectivement un signal d'alerte, mais c'est aussi, oui, un appel en fait à une gestion économe de l'eau au vu de la situation.
Les éleveurs sont aussi inquiets. Leur stock de fourrage était déjà très faible avant l'hiver et s'il ne pleut pas, les prochains fauchages ne seront pas drus. Des nappes très basse et des débits de cours d'eau seulement au quart de leur valeur habituelle en cette saison.
On a des débits de cours d'eau qui sont très faibles aujourd'hui par rapport à ce que l'on rencontre habituellement. Nous ne sommes pas encore au seuil d'alerte, mais s'il ne pleut pas, effectivement, on arrivera assez vite à des mesures de restriction, voire des mesures d'interdiction complète d'irrigation.
Deux captages d'eau potable dans les secteurs de Levet et Drevant sont également très bas.
Michel Benoît, France Bleu Berry, dans la Creuse, où les nappes phréatiques n'ont jamais été aussi basses depuis le début des relevés, l'arrêté est déjà actif, même s'il n'y a pas de mesures contraignantes pour l'instant.
Et on n'a pas fini de parler de la sécheresse dans le sud, mais pas seulement, on vient de l'entendre. Un nouvel épisode du Brexit se joue ce soir à Bruxelles, lors du sommet extraordinaire de l'Union européenne, avec un report possible de la sortie du Royaume-Uni.
Theresa May demande un report au 30 juin, se pose alors le problème des élections européennes qui auront lieu fin mai. Aux dernières nouvelles, un report d'un an, le temps que les Britanniques s'organisent, semble tenir la corde.
En Israël, Benjamin Netanyahu est en route pour un cinquième mandat de Premier ministre.
Netanyahou, 69 ans au pouvoir depuis 10 ans, sous le coup de la menace d'une inculpation pour corruption, a promis un gouvernement de droite avec d'autres partis qui lui apportent son soutien. La gauche sort laminée de cette élection législative.
Tous les ans, Amnesty International publie son rapport mondial sur les exécutions dans les pays où la peine de mort existe encore.
690 exécutions capitales en 2018, c'est-à-dire un chiffre au plus bas depuis 10 ans, et ce, malgré une hausse dans certains pays, dont les États-Unis et le Japon, Nicolas Ballu.
Oui, c'est vrai. Alors, on va mettre un bémol à tous ces chiffres. On ne compte pas et on ne compte jamais les exécutions en Chine qui ne donnent jamais ces chiffres. Or, les exécutions capitales se chiffreraient par milliers, selon Amnesty International. Allez, puisqu'on y est, deuxième bémol, des condamnations à mort, il y en a eu 2500 l'an dernier, un peu moins que les années précédentes. Mais cela veut dire que beaucoup de gens, 20 000 personnes à peu près, sont dans le couloir de la mort.
Mais la baisse du nombre d'exécutions est une tendance.
Oui, alors cette année, elle s'expliquerait, selon Amnesty, par la modification de la législation sur les drogues en Iran. Il faut savoir que lorsqu'on parle exécution, on parle principalement de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, du Vietnam et de l'Irak. Mais plusieurs pays, encore cette année, ont décidé d'en terminer avec la peine de mort ou ont déclaré un moratoire. Donc l'abolition progresse, mais aussi dans de nombreux pays où la peine de mort existe, elle n'est pas nécessairement pratiquée. Elle tombe en désuétude.
C'est la victoire de la diplomatie internationale.
Alors, pas toujours, d'autant que certaines des plus grandes puissances mondiales la pratiquent toujours, hein, les États-Unis, la Chine ou l'Inde. Le contexte international de tension, de risque terroriste n'incite pas aux pressions entre États. Ce qu'on appelle la diplomatie des droits de l'homme est beaucoup moins invoquée qu'il y a 10 ou 20 ans. On peut donc espérer qu'il existe une logique plus humaniste, une logique propre.
Merci, Nicolas Ballu.
13h09 sur France Bleu, la suite d'une heure en France, c'est une révélation concernant Léonard de Vinci qui était ambidextre selon des scientifiques italiens qui dévoilent les résultats de leurs recherches en cette année de commémoration du 500e anniversaire de la mort de l'auteur de la Joconde. Le temps de se mettre à table avec un jeune boucher de 20 ans qui fait un tour de France pour militer et faire inscrire la boucherie française à l'UNESCO comme patrimoine immatériel.
Il s'appelle Victor Dumas, il est lyonnais, meilleur apprenti de France en 2016 et troisième du concours mondial. Pour lui, la boucherie française est à part.
J'ai vu toute la technique française et l'art dans la découpe qui se démarquait par rapport aux autres pays. On va dire qu'en France, on est un peu chirurgien de la viande, parce que sur une demi-bête, on va pouvoir détailler jusqu'à 40 morceaux, pendant que dans d'autres pays, ils vont en détailler 5 ou 6. Des pièces comme le merlan, les araignées, ça c'est tout des muscles qu'on va pas trouver dans les autres pays, mais qu'on trouve en France. Ensuite, il y a aussi un parage plus précis. Quand on va faire cuire une pièce de viande en France, on va pouvoir tout consommer, à part les os, si jamais il y aura, si c'est des côtes. Et donc c'est à ce moment-là que j'en ai parlé à la Confédération française de la boucherie, d'inscrire l'art de la boucherie française au patrimoine de l'UNESCO. Le métier de boucher est souvent sali par toutes ces images de vegan et tout ça, mais je pense que ce projet, c'est important pour montrer la belle image du métier, redonner envie à des jeunes, et puis montrer aussi que le métier de boucher, c'est pas juste couper un morceau de viande, c'est bien plus que ça, c'est aller chez son éleveur, choisir une bête de qualité, la travailler au mieux, et puis ensuite donner le conseil aux clients. C'est un métier très complet, c'est ce qui est très intéressant dans le métier de boucher.
Nous sommes les chirurgiens de la viande, dit le boucher. Victor Dumas au micro de Solène Delarquier lors de son passage en Alsace. Il veut donc faire inscrire la boucherie française au patrimoine de l'UNESCO. Vous avez déjà mangé de l'araignée, Frédéric ?
Oui, bien sûr, c'est délicieux.
C'est un steak, bravo, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Non. On l'appelle le beefsteak du boucher, il a beaucoup de goût, c'est très bon, mais ça ne c'est pas très joli comme steak, c'est pas beau comme une entrecôte par exemple.
Allez, on passe au sport, la Ligue des champions de football avec les résultats d'hier et la suite ce soir.
Tottenham a battu Manchester City 1-0 avec un grand Hugo Lloris et Liverpool a battu Porto 2-0 ce soir. Ajax d'Amsterdam, Juventus de Turin et Manchester United, Barcelone.
Une info importante pour les amateurs de rugby.
Très importante.
TF1 va diffuser l'intégralité de la Coupe du Monde au Japon du 20 septembre au 3 novembre.
48 matchs en clair donc, et c'est une première. En 2015, c'était sur TF1 et sur Canal+. Pour suivre l'équipe de France, il faudra s'organiser avec le décalage horaire. Ce sera vers 9h du matin.
C'est pendant la Coupe du Monde de rugby que va sortir le nouvel album d'Astérix.
La fille de Vercingétorix, une mince jeune fille avec une longue tresse terminée par un nœud. L'annonce est arrivée sur le compte officiel Twitter d'Astérix. Vous vous rendez compte, les Gaulois sur Twitter.
On n'arrête plus le progrès.
Vous savez ce que dit Jules César dans Astérix ?
Non.
Veux-tu rendre à César ce qui m'appartient ?
Oh, bien trop, oui. On en a parlé plusieurs fois de Léonard de Vinci ces derniers temps dans Une Heure en France, à l'occasion des 500 ans de Saint-Maur-en-Amboise, de son influence sur le château de Chambord. Mais on n'a jamais dit qu'il était ambidextre.
Parce qu'on ne le savait pas. Des scientifiques italiens qui travaillent sur le génie le révèlent aujourd'hui. L'ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain, travaillait des deux mains.
C'est en étudiant la première œuvre de l'auteur de la Joconde que l'on est arrivé à cette conclusion, Mathilde Imberti.
Essentiellement gaucher, Léonard de Vinci savait aussi parfaitement se servir de sa main droite pour écrire, peindre ou dessiner. C'est en analysant sa première œuvre, dessinée à l'âge de 21 ans en 1473, que les chercheurs italiens sont parvenus à cette conclusion. Le dessin, en l'occurrence, s'intitule « Le paysage » et porte deux inscriptions. L'une au recto, rédigée de la main gauche, avec l'écriture typique en miroir de Léonard de Vinci, l'autre au verso, écrite de la main droite de l'artiste. Et la qualité des deux inscriptions est identique. Pour le conclure, les scientifiques ont travaillé durant des semaines, utilisant les technologies les plus avancées de la manufacture des pierres dures de Florence, une structure sans équivalent en matière de recherche sur l'art. Leur lampe à infrarouge a aussi permis de révéler au dos de cette première œuvre un dessin jusqu'ici inconnu. Le paysage pourra être admiré dans la ville natale de l'auteur de la Joconde, à Vinci, à compter du 15 avril, l'une des nombreuses rétrospectives organisées en Italie à l'occasion des 500 ans de la mort du génie toscan.
Mathilde Imberti et Léonard de Vinci, l'artiste qui rapproche la France et l'Italie au-delà des bisbilles politiques récentes entre les deux pays.
Et les Italiens sont d'ailleurs parmi les visiteurs les plus nombreux dans le centre Val-de-Loire, où l'artiste italien a laissé son empreinte. Après le génie italien, un chanteur culte belge dont on célèbre cette semaine les 90 ans de sa naissance, Jacques Brel, celui qui chantait Ces gens-là.
Ces gens-là est aussi un hommage qui vient de sortir, un album de chansons de Brel interprété par plusieurs générations, de Michel Jonas à Bernard Lavilliers, Mélodie Gardot, Zaz, Carla Bruni ou Gauvin Cerce. On a été séduit par ce clin d'œil qui ouvre l'album. Thomas Dutronc qui chante Vesoul et qui chante donc aussi Dutronc père.
Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Par hasard, t'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutronc, on a quitté Dutronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ceux que je sais d'heure, t'en j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard.
J'adore.
T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron par Thomas Dutron, fils de Jacques.
Allez, dans un instant chez nous, c'est t'as voulu faire une belote, on va faire une belote. Et puis on va remonter à l'histoire du jeu de cartes.
On va aussi découvrir un poisson poubelle en Bretagne et des œufs de Pâques solidaires partout en France après la météo.
Francebleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur Francebleu.fr.